La seule musique qui l'emporte sur celle du moteur, c'est celle de la radio.
Cantus 80.
Et là, on va vous balancer de la musique. C'est parti, les gars.
Radio Campus.
Il faut quand même qu'il y ait une intensité, qu'on sente qu'il y a du vécu, qu'on n'ait pas l'impression que c'est un tableau. It's a very thrilling
sight here at the moment. Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
C'est quelques jours avant l'inauguration de la Maison de la Radio, le 14 décembre 1963, que les chaînes de la radio-télévision française ont changé de nom. Dans les semaines qui ont précédé, la TAF, l'Association des téléspectateurs et auditeurs de France, que présidait François Mauriac, et l'AGA, l'Association Générale des Auditeurs, présidée par André Pahin, en accord avec la direction générale de la RTF, avaient lancé un concours. Du 21 octobre au 5 novembre 1963, les auditeurs étaient invités à envoyer leurs propositions de noms et de slogans pour les trois chaînes de radio qui étaient alors RTF Inter, RTF Promotion et Haute Fidélité. Le Parisien Libéré rapporte à l'époque que les 171 145 réponses qui ont été adressées ont donc été sélectionnées par un jury qui a fini par valider le nom des chaînes qui fêtent maintenant ses 60 ans, France Inter, au lieu de RTF Inter, France Culture pour RTF Promotion et France Musique pour RTF Haute Fidélité. Et puis, le journal Paris Jour avait révélé un petit échantillon de titres proposés par des auditeurs que le journal qualifiait de facétieux. Certains voulaient englober les trois chaînes sous un seul nom comme Les Trois Mousquetaires ou encore Liberté, Égalité, Fraternité, pendant que d'autres s'amusaient à imaginer qu'au lieu de RTF Haute Fidélité, la chaîne qui allait devenir France Musique aurait pu s'appelait Yéyé Blabla ou Amour, Délices et Orgue. Maintenant que l'on écoute la radio depuis 60 ans ou bien depuis quelques mois, des motifs de satisfaction ont pu se sédimenter, mais aussi des motifs d'insatisfaction. Alors plutôt que de jouer les pour et les contre, plutôt qu'une promenade sur les clivages, Métaclassique prend la tangente et va à la recherche des motifs d'espoir, en proposant à des pas du tout satisfaits, à des plutôt satisfaits, à des un peu insatisfaits ou à des très très satisfaits, de se prêter à une expérience de pensée. Et si France Musique s'était vraiment appelée Amour, Délices et Orgue? Pour nourrir cette hypothèse, vous entendrez successivement l'auditeur Franche Langouette, auteur du livre 60 ans au poste publié par l'Harmattan, Franck Lanoux qui a fait paraître le dictionnaire amoureux de la radio aux éditions Plomb, Roselyne Bachelot qui, avant d'être ministre de la Culture, a été pendant quelques saisons chroniqueuse de France Musique, Yves Riesel qui, avant de lancer la lettre Quack Info, a été directeur et cofondateur du label Abeille Musique et du site Cobuzz, et Marina Chiche qui est à la fois violoniste et chroniqueuse de musique classique sur France Inter. Et pour donner un aperçu de ce qu'aurait pu être France Musique si elle s'était vraiment appelée Amour, Délices et Orgue, ce sont deux autres violonistes, Clary Majerchik et Pierre Licia Borono, qui se sont prêtés pour cette émission à quelques simulations.
Amour, Délices et Orgue, Radio Ado, 91.7.
Vous allez le Doremi.
Franche Langouette, quel était l'état d'esprit en 1963, quand a été inaugurée la Maison de la Radio, pour que les trois chaînes de l'époque aient des noms aussi proches les uns des autres?
Alors, il y a une petite entourloupe, Roland Dordain, qui a travaillé sur la réforme de l'ORTF, a dit « on va faire un concours d'auditeurs ». Pour trouver les noms. Et ils ont effectivement, beaucoup d'auditeurs ont répondu. Et ça a failli s'appeler France Bleu, France Blanc, France Rouge.
Ah oui.
Voilà, mais déjà, bon, ça commençait bien.
Ah oui, France Bleu a existé bien avant 1997, alors ouais.
Exactement. Bon, ceci étant, il y a un peu de tambouille interne. Et puis Dordain a dit France Musique, France Culture, France Inter. Dordain a trouvé, bon, il a eu la très très bonne intuition de donner, de commencer avec le mot France, parce que voilà, ça ciblait bien.
Ça a été repris depuis, on a France Relance,
France Travail qui France va sortir Travail. Bientôt. Et c'est effectivement, passer de Paris Inter à France Inter, c'était simple. Mais tout de suite, ça montrait qu'on sort du parisianisme, et qu'on va arroser la France entière, et surtout qu'on va aller au-devant des Français.
Alors, dans ce concours d'auditeurs organisé par Roland Dordain, il y a un des auditeurs qui avait proposé que France Musique, qui donc n'avait pas encore de nom, s'appelle Amour, Délices et Orgue. Et donc, je vous propose, franchement, Gouette, qu'on dédie cette émission à savoir ce qu'aurait pu être cette chaîne si elle n'avait pas eu le nom qu'elle a eu. Vous avez des idées ?
Eh bien, je pense qu'à l'antenne, on aurait peut-être été moins fermé sur le classique. Dans un premier temps.
C'est-à-dire moins concentré sur répertoire-là.
Voilà, celui-là. Et après, moins en chapelle ultra, le jazz.
Écoutez, je ne sais pas ce que ça aurait changé, parce qu'il aurait fallu que je vive cette époque, voir dans quelle mesure ce nom-là avait du sens.
Franck Lanoux.
Après, on était dans un univers radiophonique qui était assez fermé, donc quelque part, il peut aussi certainement se passer des choses un peu anachroniques, que ça aurait marché, puisque quand vous avez peu d'offres, vous n'avez pas besoin de vous battre pour émerger, vous émergez presque naturellement. Et donc, on peut imaginer en effet qu'un nom un peu artistique, comme ça, une création un peu spontanée, donc qui ne répondent pas forcément à une obligation de marketing, ce qui est quand même un peu le cas des marques.
Oui.
C'est quand même de répondre à un objectif marketing. On peut en effet peut-être imaginer qu'avec un nom comme ça un peu anachronique, ça aurait pu avoir du sens et de l'efficacité.
De l'efficacité, c'est-à-dire qu'il y aurait des programmes plus utopiques, plus...
Non, je pense que ça aurait attiré par cette différence, par cette incompréhension. L'incompréhension aurait attiré. Mais je répète, c'est dans un monde qui était très fermé, très, très petit, donc ça avait cette chance-là. Aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser à créer comme ça des produits, des marques, des programmes radio dans un univers qui est totalement ouvert, où si vous commencez à jouer un tout petit peu trop avec la fantaisie ou avec une création spontanée, artistique, vous auriez du mal à émerger dans un marché. Et donc, je pense que là, il y a un vrai risque d'exister.
Pour autant que le marché nous dit toujours qu'il faut surprendre pour émerger.
Oui, il faut surprendre, mais il faut être compris. Et donc, bien évidemment, pour être compris, il faut que les gens l'intègrent. C'est-à-dire qu'on fait ça pour les gens, on ne fait pas ça pour nous faire plaisir. Un artiste, c'est différent.
Ah bon ?
Un artiste, il fait quelque chose qui n'a pas été fait avant lui. Donc, il invente complètement. Puis, quelque part, il se fiche de l'effet que ça va avoir. Et pour lui, il a le temps. C'est-à-dire qu'en effet, il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont reconnus après leur décès.
Mais alors, donc, si la radio est une marque, elle ne peut plus être un art ?
Bah, je pense.
Ah oui, pour vous, c'est saugrenu de penser que ça puisse être un art ?
Non, c'est un des éléments possibles, bien évidemment. Il y a des expressions artistiques radiophoniques, bien évidemment. A priori, ce n'est pas celles qui sont les plus populaires. Celles qui sont les plus populaires, elles répondent à un besoin et que les gens ont réussi à identifier. Après, qu'il y ait de l'expérimentation, très bien. Dans mon dictionnaire, vous avez Jean-Michel Jarre, qui fait un très gros travail avec France Musique, avec Radio France en général, et qui vous raconte ça très, très bien. Donc, c'est possible. Moi, je dis toujours que la radio, c'est un terrain de jeu merveilleux, quasiment sans fin, et que donc, on peut tout faire. On peut faire un match de foot, on peut enchaîner les disques, on peut faire un débat, et puis on peut faire de l'expérimentation radiophonique.
Roselyne Bachelot, bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être première question, est-ce que vous préférez le mot amour au singulier ou au pluriel ?
Je suis une respectueuse de la langue française, donc je sais qu'au singulier, ces trois mots sont masculins et sont féminins au pluriel, ce qui faisait dire cet orgue est le plus beau des plus belles. Mais évidemment, je préfère de loin France Musique, c'est simple, ça dit parfaitement ce que ça veut dire. Dieu merci, il n'y a pas que de l'amour dans la musique, il n'y a parfois pas toujours des délices et en tout cas pas uniquement de l'orgue. Donc France Musique, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
Parce que vous êtes en train de dire finalement que ça aurait pu, par exemple, faire un filtre où il n'y aurait eu que des musiques sentimentales, ou que des musiques
non,
délicieuses.
Mais puis c'est trop compliqué. Vraiment, cette proposition est une proposition excluante. Et la radio, et en particulier la musique, sont faites toutes les deux pour rassembler. Donc, et en plus, de rappeler que c'est une radio de service public, et vous connaissez mon attachement au service public et la défense sans concession que j'ai apportée au service public de la radio et de la télévision pendant toutes les fonctions ministérielles que j'ai eues. Donc, pardonnez-moi d'être un peu, beaucoup, intégriste sur ces questions.
Ah oui, alors je m'imagine assez mal
les
responsables de cette radio aujourd'hui en charge d'une antenne qui porterait ce nom-là. Donc je pense qu'ils auraient été... Oui, ils auraient simplement changé le...
Changer le nom ?
Changer le nom.
Ils
ne seraient pas embarrassés de ça.
Mais en quelle année vous pensez qu'ils auraient changé de nom ? Parce que si ça avait commencé en 63, Il y aurait eu un moment de l'histoire de Radio France en particulier où la nécessité de changer de nom aurait commencé?
Bon, que si je me souviens de mes premiers émois à France Musique, tout ça c'était un petit peu collé monté. Mais je les aimais, déjà à l'époque, je les imagine mal avec un tel nom. En revanche, il y a un moment peut-être où France Musique aurait pu s'appeler comme ça. Ça a été le moment d'Andrel, en fait.
Alors, le moment d'Andrel était un moment où la fantaisie aurait été bienvenue.
Ah oui,
c'est donc là, on est au milieu des années 70. Oui, hein,
ça a été un moment extraordinaire. Et alors, il a véritablement dynamité cette radio. Et alors là, je pense qu'on aurait pu l'appeler comme ça, cette radio. Bon, à l'époque, je ne sais pas quand est-ce qu'a été créée la radio Le Move, par exemple.
À la fin des années 90.
À la fin des années 90. Bon, on aurait pu imaginer une telle radio, mais pas pour remplacer France Musique, en vérité. Enfin, l'épisode d'Andrel est un accident incroyable de l'histoire, en vérité. Et ce type aurait jamais dû être, on n'aurait jamais dû lui laisser faire ce qu'il a fait. C'est très intéressant.
C'est presque une crise d'adolescence de l'histoire de la chaîne, finalement, puisqu'elle avait exactement 13-14 ans.
Ah oui. Ah, moi, je me souviens très bien de mes émois, encore une fois, avec France Musique. J'y apprenais des tas de choses. On était déjà bien biberonnés à toutes les idées reçues, les interprétations qu'il faut préférer, etc., etc.
Oui, alors quand on lit les vieux téléramas, on voit que les auditeurs se plaignent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous ne voulons que de la musique classique, et toute la journée, et patati et patata. Ce qui est assez rigolo, c'est que les auditeurs et les lecteurs de téléramas disaient ça au début, enfin, oui, période d'Andrel, donc c'est 75-77, ils disent ça au début, mais 50 ans plus tard, ils le disent encore. C'est les mêmes ou c'est...
Vous rappelez que Jean-Paul Sartre avait protesté contre la réforme de France Musique, de Louis d'Andrel, avait fait une déclaration assez percutante dans Le Monde.
Oui.
Il voulait le retour de Mozart.
Oui.
Il ne pouvait plus travailler, il ne pouvait plus écouter France Musique en travaillant.
Il ne supportait pas qu'il y ait des musiques du monde en plein milieu d'après-midi, par exemple.
Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis surtout, ça le dérangeait. Voilà, il ne pouvait plus écouter de la musique en travaillant, en écrivant. Il pensait que... C'est très intéressant comme histoire. Et c'est vrai qu'on avait l'air d'être dans une espèce de dérive permanente.
À vendre. Matériel d'ornementation très peu servi. Idéal pour agrémenter partitions précieuses ou tentatives post-séquencistes.
Artiste performeur à très faible notoriété cherche petit boulot de relations publiques très discrètes. Ambiançage de journaliste à l'entracte. Diversion pour invité gênant pendant le passage à la billetterie. Félicitations au compositeur après création. Garde ponctuelle d'adolescents navrés devant la salle de concert, le temps de tranquillement terminer vos mondanités. Possibilité de facturer les prestations à l'unité ou au forfait, chaque CESU accepté.
Flûtiste qui a perdu le goût des rôles d'oiseau. Je recherche emploi dramatique, aventurier, avec ou sans faux sucre, ou même projet art-science. Disponible à toute proposition pour prouver sa motivation. Test d'aptitude, casting sauvage, correspondance amoureuse, ou même pioche par algorithme de matching.
Amour d'Élysée Orgue.
Parce qu'il y a eu quand même dans l'histoire de la chaîne, puisqu'on parle amour d'Élysée Orgue, ces trois mots qui changent de genre en passant au pluriel, le débat sur le pluriel au mot musique. Puisqu'il y a eu une période où en effet on appelait France Musique avec un S. Et avec la disparition de ce S, il y a eu aussi la disparition de certains répertoires comme la pop, la musique du monde moins exposée.
Oui,
Marina Chiche.
On achoppe souvent aux mêmes questions. Donc, en fait, c'est toujours... Ce qui est dommage peut-être, moi de mon expérience, c'est quand on a ces conversations-là où on essaye de faire changer le paradigme, la première chose qui émerge, c'est la peur. On a l'impression que si on ouvre les portes, si on élargit, si on sort du canon, tout de suite, c'est une invitation à la médiocrité, c'est une invitation à la perte de la transmission. Quelque part, on peut comprendre d'où viennent certaines peurs, c'est-à-dire que, évidemment, le pendant de cette pièce-là, ça serait de tomber dans un relativisme musical. Voilà, c'est peut-être ça qui peut être agité.
Le tout se vaut.
Le tout se vaut, oui. Voilà, qui est fatigant. Qui est fatigant et qui, évidemment, résonne avec des chaînes généralistes qui ne programment plus de musique classique. Donc, c'est vrai que c'est un truc de repli, de niche. La musique classique qui est en fait devenue niche, qui est enfermée dans son ghetto. Un ghetto qui est censé être une cage en doré, mais certains ghettos quand même. Et donc, c'est vrai que... Il y a quelque chose de systémique qui se joue. Parce que pour l'avoir vécu, alors du côté France Inter, où justement il n'y a presque plus de musique classique, C'est vraiment dramatique. Ouais. Je veux dire, complètement au-delà de qui le porte et comment, par principe, c'est fou. Parce que justement, si on a si longtemps accusé la musique classique d'être cette musique de bourgeois, dominante, discriminante, etc. Et du coup, elle se retrouve discriminée et sortie de l'échiquier musical. Et ce qui est une forme de retournement de violence. Alors, vraiment, je ne suis pas sûre que ce soit souhaitable. Voilà.
C'est-à-dire que c'est comme si la musique classique n'était plus de l'ordre de la culture.
Mais non,
ou même
elle est sortie
de la savoir,
elle est sortie de la table des arts, la table des débats. Ouais. Et ça, je trouve que, je veux dire, si on peut déplorer qu'il n'y ait plus de musique classique sur France Inter, c'est une chose, mais qu'il n'y en ait pas sur culture, c'est la fin des haricots.
On peut faire un match de foot, ce qu'on ne fait pas forcément souvent à France Musique. En revanche, je me suis demandé si ça s'était appelé Amour des lycées orgue, si on ne pourrait pas y mettre des audiodescriptions d'opéra.
Moi, je crois que le service public se doit de répondre à un public. Donc, il faut qu'il soit capable de le trouver, ce public. Donc après, moi, je n'ai pas la compétence pour vous dire tout ce dont les gens ont envie et tout ce dont les auditeurs de France Musique ont envie, voire besoin.
Ça, faudrait le tester pour savoir. Parce que
pense,
oui, ça voudrait dire de mettre des speakers qui diraient un peu la mise en scène de la Traviata en même temps qu'on entendrait la...
Voilà, je pense en effet qu'il y a peut-être... Puis entre-temps, il y avait quand même l'image qui est née, et des choses plus rapides qui sont en fait... Un opéra, c'est quand même physique aussi. Donc le visuel a du sens, on peut l'écouter, mais raconter ce qui se passe, c'est peut-être un peu compliqué. Je pense que ça pourrait gâcher la musique, du coup, alors ce serait vraiment dommage.
Bonsoir, chers auditeurs de ADO 91.7 Amour des lycées orgue. Bienvenue dans la retransmission de Lohan Green en direct de l'Opéra.
Salut, c'est Thierry, avec ma comparse Clarisse, on va vous commenter, cette représentation qui commence fort, oh là là, on a ce qui semble être Telramund qui est en haut d'une montagne, on voit sa gorge qui se serre, on sent qu'il monte dans les aigus.
Voilà une grande montagne, alors pour que vous visualisiez une grande montagne, devant un mur de carrelage, bleu-gris, et puis derrière, Mezzo qui s'affaire en se tirant les cheveux.
Mezzo, les mains dans les cheveux. On sent que pour elle, c'est compliqué. On sent que le grand air ne va pas tarder à arriver. On la voit. Oh là là, le metteur en scène qui l'a fait s'asseoir.
Possible, parce qu'on voit déjà dès ses premiers plans tout le travail des entraîneurs derrière. Rien n'a été au hasard. Vous voyez là les jeux de corps, la coopération, c'est très très travaillé, très ensemble.
Oui, on sent là le travail fantastique de leur nouvel entraîneur, chef de chant. On sent bien sûr venir le moment du pénalty, c'est-à-dire le solo de hautbois qui se profile. Va-t-il attraper ? On se souvient du problème de clé qu'avait eu l'orchestre de l'opéra la dernière fois, le hautbois. Oh là là, on espère que cela ne va pas se reproduire ce soir. On espère que tout va se passer pour le mieux. Mais voici déjà venu le moment de l'entracte. On se retrouve après une page de publicité.
Sur ADO, Amour des lycées orgue, 91.7.
Amour des lycées orgue.
Mutuelle d'assurance propose contrat garanti happening avec indemnisation des auditeurs insatisfaits à hauteur de 300% des prix d'entrée sur présentation d'une attestation d'ouverture d'esprit et de bonne foi. Réduction de 50% la première année pour les souscripteurs pouvant justifier d'une bonne tolérance esthétique sans antécédent de cavale, sans manifestation d'a priori au cours des 5 dernières années.
Alors, c'est un débat qui est récurrent et pas seulement sur la musique. Faut-il parler de culture E ou de culture ES ?
Roselyne Bachelot.
Il y a d'ailleurs certains élus municipaux qui ne nomment pas des adjoints à la culture, mais des adjoints aux cultures. Là encore, je milite pour l'aspect universel de la culture et de la musique. Ça ne veut pas dire que... On n'a pas le sentiment que les démarches sont plurielles, évidemment, et sont admises, par exemple, comme une musique classique, le jazz, au début, où il y avait une contestation sur ce sujet. La plus populaire des musiques savantes et la plus savante des musiques populaires, disait-on, de cette musique. Mais il y en a d'autres, des musiques africaines, par exemple, sud-américaines, asiatiques, qui sont maintenant considérées comme des musiques classiques. Alors, moi, je préfère qu'on garde France Musique, parce que là encore, je pense que c'est quelque chose de plus concernant et de plus inclusif. De s'appeler musique sans S.
Parce que depuis qu'on a retiré l'ES, on a aussi retiré certains répertoires. Il y avait de la pop qui était sur l'antenne, il n'y en a plus. Il y a moins de musique du monde qu'il y en avait, notamment dans les années 70.
On a tort, c'est pas parce qu'on mettra un S qu'on mettra plus de pop et qu'on mettra plus de musique d'autres origines ethniques. C'est une volonté politique, c'est une volonté de programmation. Penser qu'on changera la programmation parce qu'on ajoutera ou qu'on retirera un S, pardon, mais c'est des débats picrocolins.
Et donc, si on a le débat sans la question du nom de la chaîne, est-ce qu'il faudrait plus de diversité musicale alors ?
J'ai le sentiment que la diversité musicale peut être portée par d'autres chaînes. D'ailleurs, ces chaînes ne manquent pas sur le service public. Je crois aussi que ce qui fait la richesse du service public, qu'il y a beaucoup de chaînes de radio, c'est justement de leur donner une identité. Et c'est d'ailleurs ce qu'a voulu la nouvelle direction de Radio France en supprimant un certain nombre de pastilles d'informations, en gardant, mais pour que tout se ne mélange pas entre inter, musique, culture et les autres radios. Il faut qu'elles aient une identité, ces radios, et ma foi, s'il y a d'autres radios qui portent la diversité ethnique ou la musique pop, qui quand même est présente sur France Musique, hein, elle n'en est pas totalement exclue.
Donc ça veut dire que le classique est foutu potentiellement ?
Non, au contraire, moi je pense que...
Marina Chiche.
Moi j'ai une confiance infinie dans le classique. Alors par contre, j'ai beaucoup moins de confiance dans la manière dont le classique est instrumentalisé, et utilisé,
et présenté, et médiatisé,
ou même pas médiatisé du coup. Mais à l'inverse, moi je pense que dans des logiques de remettre la musique classique à la table des débats dans la société, il y a aussi une possibilité de régénération du discours sur la musique, justement dans une logique de déplacer, en fait, de pouvoir aborder des thèmes de débat de société à travers la musique classique. Finalement, ça nous donne un terrain incroyablement fort, symbolique et historique, dans une forme d'intersectionnalité, d'interdisciplinarité. On arrive à régénérer le répertoire, justement. On peut se rendre pertinent en tant que musicien classique, c'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, notre vision du monde, notre vision de la société, on n'est pas dans une vision d'une société qui n'est que masculine, blanche et depuis plus de 50 ou 100 ou 60 ans, je sais même plus quelles sont les catégories habituelles, et qui s'adresse qu'à une certaine classe sociale. On peut justement rebattre les cartes, rajouter d'autres cartes qui ont été mises de côté, et donc ça nous remet dans le game.
Je sais pas, c'est de la radio, donc on voit pas trop s'il y a un S ou pas, hein. Donc voilà, donc ça les a peut-être amusé un moment de montrer ça. Je pense que
c'était pour affirmer un pluralisme.
Voilà,
genre,
c'est ça. Ouais. Historiquement, France Musique était associée à la musique classique, et ce que même certains parfois appellent la grande musique. Et donc, ils voulaient en effet me prouver qu'il y avait différentes. On ouvrait un petit peu le programme de France Musique. Non, ça a du sens. Voilà, qu'ils aient fait marche arrière après. Je crois qu'ils ont sûrement eu des bonnes raisons. Je pense que c'était pas stratégique de le retirer. Je pense que c'était sûrement intéressant de le mettre. Par contre, c'était
parce que c'était une ouverture.
Non, ça montrait quelque chose. Vous avez toujours besoin de montrer, de prouver des choses. Je pense que tout le monde pourrait être intéressé par un programme de France Musique, mais tout le monde n'y va pas. Et donc, je pense que vous avez toujours besoin de prouver aux gens que vous faites ceci, que vous faites cela, que vous êtes engagé dans tel combat, que vous avez ce type de programme, de service. Il faut expliquer. Moi, je suis certain aussi qu'il y a une émission que j'adorerais quelque part, je ne sais pas où elle existe, je ne sais même pas qu'elle existe. Et donc, c'est un sujet. Donc, il faut qu'on vienne vers moi avec des messages qui soient clairs pour me dire, tiens, Franck, voilà ce qui se passe, il y a ci, il y a ça. Et voilà, donc, oui, je pense que la musique, c'est tellement un langage universel et qu'elle a le devoir d'être partagée qu'en effet, France Musique, peut-être, aurait bien à faire d'en dire encore un peu plus sur ce qu'elle fait tout le temps et avoir peut-être aussi une lisibilité encore plus clair dans son offre pour que tout le monde sache exactement ce qui s'y passe.
Et toi, tu veux savoir ce que Yu Jiawang va jouer en bis demain ? Alors envoie bis au 83232. Tu peux aussi télécharger les derniers hits de tes artistes préférés parmi notre catalogue. Pour That Girl Is So Fickle de Verdi, envoie Verdi au 84646. Pour You Are My Queen of the Night and I'm Your Magic Flute, envoie Mozart au 73737. Et pour That Hot Miller, tape Schubert au 9-49-49.
Prix 4 euros plus prix d'un SMS. Supplément de 3 euros pour le téléchargement des airs de Wagner. L'écoute de Wagner est dangereuse pour la santé, à consommer avec modération.
Amour d'Élise et Orgue pour tous les ados de 7 à 77 ans.
À Amour, délice et orgue, qui d'ailleurs, ça fait ado, hein, c'est bon, c'est pas très très vendeur pour un public de passer 40 ans, mais ça aurait été rigolo.
Bah, peut-être non. Que le public aurait été plus jeune.
Oui, peut-être le public aurait été plus jeune, surtout si on avait essayé d'y mettre un peu, alors sûrement en 63, un peu de Salut les copains, un peu de Gérard Klein sur Inter avec le hit parade, voilà, un peu, alors, bien sûr pas comme ça, mais en mettant une bonne place à la chanson et une bonne place aux musiques autres que la musique classique et le jazz. C'est comme un rêve pour moi, si on avait pu avoir ce type de radio, ce que Pierre Bouteiller a voulu faire quand il est venu. Mais Pierre Bouteiller a fait moins que son prédécesseur de 1975. Mais c'était déjà bien, parce qu'il a fait venir Philippe Manœuvre pour faire du rock. Bon, voilà. c'est rigolo comme titre, mais c'est déjà presque académique, quoi. C'est... amour, délices et orgue, on se dit, et tout le reste, quoi. Alors, bien sûr, il reste les délices. Sur délices, on aurait pu faire des variations, oui. D'ailleurs, des variations dans le titre. Mais je ne sais pas si les directeurs de France Musique étaient si rigolos que ça. Et je m'excuse d'insister, mais je ne crois pas qu'il existe de chaînes de radio qui ont un titre en trois noms. C'est fun... Pour Fun Radio, ça parle tout de suite. Les acronymes tels que NRJ ou RTL, RTL a remplacé Radio Luxembourg. Ben, RTL, ça parle beaucoup plus, même si on ne savait pas que c'était Radio Télé Luxembourg. Donc voilà. Ou RMC, Radio Monte Carlo. Voilà.
Radio Ado, amour d'Élysée Orgue 91.7, de l'acné à l'acné.
Guitariste expérimental mais expérimenté, rigoureux mais décontracté, cherche à construire une relation sérieuse avec violoncelliste plutôt fantasque et techniquement irréprochable. Proposition discographique serait un plus.
Harpe éolienne de bonne composition, bien entretenue et prête à tout, avec un penchant très marqué pour les écritures musicales tempétueuses, attend vent contraire pour changer de répertoire.
Critique musicale fraîchement reconvertie, vend grand stock de métaphores passe-partout, pouvant convenir en toutes circonstances, concert plus ou moins mémorable, happening au bord de l'inconsistance, création contemporaine déroutante.
Avec le temps, les marques disparaissent. Je veux dire, par exemple, le FNAC, personne ne sait trop ce que ça veut dire, FNAC. Pourtant, ça correspond bel et bien à
un acronyme,
initiales. Voilà. Ouais. Donc, au bout d'un moment, les marques disparaissent. Moi, j'ai repris RMC. À l'époque, c'était une marque qui n'était pas très belle, très abîmée.
Radio Monte Carlo quand même, des fois.
On disait Radio Monte Carlo historiquement. Après, ils avaient simplifié avec RMC. Nous, quand on le reprend, c'est pas une marque très très belle. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent changer de nom, ce nom est moche. Et puis, il est trop connoté échec, bide. Et donc, il fallait qu'on le change. En gros, nous, on a voulu le garder parce qu'on s'est dit tous les Français connaissent cette marque. Et c'est à nous de travailler pour retourner la table. Et il a fallu en effet quelques mois, quelques années peut-être, 2-3 ans, pas plus, pour que les gens aient tout de suite une autre perception de la marque. Donc quelque part, tout, la FNAC, c'est pas un très joli mot FNAC, mais à la fin c'est une très bonne image, enfin on sait à quoi ça sert la FNAC, c'est quelque chose qui a du sens. Donc je pense qu'au bout d'un moment, les choses se retournent et les noms quelque part n'ont plus forcément une signification très forte, ils ont celle qui a été construite par l'entreprise et par le service. Donc appelez les choses comme vous voulez, il n'y aura pas de problème. Mais il faut être capable d'émerger. Donc inventer une marque folle qui n'avait pas beaucoup de sens, il faut avoir beaucoup de moyens pour que quelque part les gens la voient, l'identifient, la reconnaissent, la cherchent et finissent, puisque la programme de radio, par s'y fidéliser.
Mais alors ça voudrait dire que c'est aussi grâce à une marque folle qu'on pourrait avoir des formes un peu plus débridées, des formes de radio comme ça, décomplexées.
Non, la marque folle, c'est votre libre arbitre. Donc là-dessus, amusons-nous hein, à créer des choses qui sont... Rappelez-vous, au début de l'Internet, par exemple, tout le monde s'amusait avec les deux os, hein, Wanadoo, Et puis après, il y a eu Kelkou, il y a eu Tamalou, enfin, il y avait plein de marques comme ça. Oui. Yahoo, enfin, tout le monde s'est amusé avec ces deux os. Bon, voilà, ça tombait de nulle part, cette affaire. Et puis, on a bien vu que c'était une façon de signer aussi, donc c'est des marques qui n'avaient pas beaucoup de sens. Renault s'est amusé aussi à appeler ses voitures avec des noms un peu dingues et un peu rigolos, qui étaient des créations pures et simples. Bon, mais il faut beaucoup de moyens pour mettre ça dans la tête des gens, quoi. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul dans votre coin.
Amour des lycées orgues, pour les ados de 7 à 77 ans qui aiment les orchestres de 7 à 77 musiciens.
Du coup, l'acronyme pourrait avoir un destin particulier parce que c'est vrai que ça ferait ADO. Donc ça aurait pu en faire une chaîne plus à l'adresse des adolescents qu'à l'adresse des seniors, puisqu'aujourd'hui, la moyenne d'âge de l'auditeur est supérieure à 60 ans.
Effectivement, la question de l'adresse, elle est vertigineuse et elle ne cesse de se reposer, que ce soit à France Musique d'ailleurs ou à d'autres chaînes. Mais c'est vrai que dans les enjeux de programmation, ça serait... je ne sais pas, en fait, très sincèrement, si à un moment donné, on continue à espérer que ce soit possible de s'adresser à des jeunes. En fait, je me demande si on n'a pas lâché le morceau, en vérité.
Mais qu'est-ce qui fait que c'est devenu impensable ?
C'est-à-dire, je pense qu'il y a une tension, ces injonctions doubles de France Musique qu'on connaît, de à la fois vouloir satisfaire un type d'auditorat qui ne veut pas lâcher en fait le canon. Donc, c'est-à-dire les grands compositeurs avec l'idée qu'il y a des hiérarchies dans les compositions mais aussi dans les interprétations et donc tout ça, ça évidemment moi ça m'amène sur des questions qui me passionnent et qui m'occupent beaucoup, la question du genre et de la diversité et c'est quand même de se dire quand on a un genre, alors on est vraiment sur la polysémie de tous ces mots hein, mais si on a un genre musical, en tout cas le classique, cette dénomination qui est si large, qui regroupe tellement de choses contradictoire ou en tout cas voilà, vaste, c'est très très étrange à quel point on peut s'enfermer dans un périmètre extrêmement connu et on est vraiment toujours dans cette satisfaction de reconnaître ce qu'on connaît déjà. On se rend compte quand même que c'est la manière dont on pratique la musique classique, c'est la manière dont on la programme qui nous enferme dans ce périmètre. Donc, c'est vrai qu'en fait, on pourrait se dire il y a un potentiel de renouvellement des programmations et donc des publics. Et aussi, on serait dans la possibilité de recontextualiser des choses, de porter des messages, d'être presque dans un activisme musical, mais au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire qu'on est dans la dimension du partage de découvertes esthétiques et puis aussi de traiter des sujets aussi historiques qui nous expliquent pourquoi certaines musiques ont été marginalisées, pourquoi certains compositeurs, compositrices, interprètes, voilà.
Parce qu'on pourrait aussi raisonner en termes de pluralité des genres éditoriaux et faire par exemple des libres antennes.
Ah bah ça, c'est, oui, c'est formidable. Mais le problème, c'est que voilà, tout ça nous met tout de suite dans le côté d'une prise de risque. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Il y a libre. Et ça peut aller dans des directions qui sont difficiles à anticiper.
Mais vous, par exemple, enfin, on ne peut pas dire que la musique classique soit dépeuplée d'adolescents. J'imagine que presque quotidiennement, vous devez croiser des violonistes adolescents.
Oui, alors j'en croise moins, hein, puisque je n'enseigne plus en ce moment. Mais... En tout cas, il me semble que... Là, je rentre des États-Unis. Et c'est vrai que j'ai croisé des gens qui travaillent beaucoup, justement, sur ces questions de programmes de compositeurs ou d'œuvres marginalisées. Et c'est vrai que quand on change la programmation, de fait...
On change le public.
On change le public.
Vous êtes toujours sur la radio Ado et on reçoit ce soir une nouvelle auditrice. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, comment tu t'appelles ?
Bonjour, je m'appelle Clarisse.
Bonsoir Clarisse. Alors, de quoi tu voudrais nous parler ce soir, Clarisse ?
Bah, on m'a dit que vous seriez de bons conseils, vous voyez. Je fais du violon, enfin du second violon en fait.
Ah !
Ouais, c'est douloureux et c'est inconfortable, vous voyez.
C'est vraiment courageux de venir nous parler ce soir, Clarisse. On t'écoute.
Merci. Ben, vous voyez, c'est pas évident parce que tout le monde rigole déjà. À côté, les altos, ils se marrent parce qu'ils ont une jolie corde d'eau. Les premiers nous regardent en ricanant parce qu'ils trouvent qu'on fait pas des beaux plumes alors que les plumes sont pas à l'heure ou que les plumes sont faux. Derrière, ils se marrent parce qu'eux, ils font des vraies phrases. Enfin, à l'orchestre, hein, vous voyez, je parle de l'orchestre. En quatuor, c'est pas marrant non plus, mais à l'orchestre, c'est atroce. On est... Et c'est dur, vous savez, au quotidien, quand même.
Oui, alors, je passe la parole au docteur Wolfram von Eschentrunk, qui est lui-même grand second violon, évidemment, vous le savez, de 30 ans de carrière au sein du quatuor Razumovski, n'est-ce pas? Oui, bonsoir Clarisse, bonsoir Radio Ado. Voilà, il est vrai que au début...
Bonsoir maestro, quel honneur de vous rencontrer.
Merci Clarisse. L'honneur est pour moi. Non, je comprends que c'est très compliqué, hein, les ploum-ploum au début, on comprend pas, hein, on travaille le concerto de Brahms, le concerto de Tchaïkovski, et puis on fait ploum-ploum-ploum-ploum-ploum-ploum, et puis c'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi c'est pas moi qui ferais cette phrase? Est-ce que toi aussi, parfois tu as ressenti ce besoin de se dire, mais pourquoi je suis pas à la place de mon collègue premier violon? Pourquoi je joue pas à cette place-là?
Ah oui, parfois, mais bon, vous voyez, moi je suis quand même, je suis pas un grand du second violonisme comme vous, hein, maestro. Moi je suis un second violon amateur, alors bon. Mais moi je voudrais juste qu'on respecte nos ploumes.
Oui, alors il est vrai que le second violonisme est effectivement une pathologie qui est de plus en plus reconnue, hein, de même que le haut potentiel intellectuel. Voilà, ce sont des choses qui prennent de plus en plus de place dans notre société. Alors j'aimerais poser une question à notre jeune auditrice, Clarisse. Est-ce que dans ton enfance, est-ce que tu as des frères et sœurs, Clarisse? Est-ce que tu as un grand frère qui te serait peut-être passé devant dans ton enfance, dans ton adolescence peut-être?
Oui, j'ai un grand frère.
Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait, ton grand frère?
Il gagne bien sa vie, lui.
Il fait un vrai métier, c'est ça?
Il fait un vrai métier.
Ouais, je comprends.
Et à votre avis, docteur, qu'est-ce que vous conseillez au quotidien pour soulager les symptômes du ploum-ploumisme? Et vous aussi, maestro, serait quoi vos conseils pour vivre plus en paix avec moi-même malgré les misères qu'on nous fait?
Merci Clarisse. Alors c'est vrai que 30 ans de ploum-ploumisme, 30 ans de second violonisme, voilà, je suis passé par tous les états, j'ai trouvé quelque chose qui marche. Voilà, c'est une méthode que je détaille, hein, dans mon livre, que vous pouvez d'ailleurs acheter. Hein, on donnera le lien, je pense, le lien internet en fin d'émission. Voilà, la solution que j'ai trouvée, tiens en deux mots, les antidépresseurs.
Amour Délicieux Orgue pour tous les seconds violons du monde. Entre deux ploum-ploums, vous brancherez Amour Délicieux Orgue.
Dans les années 70, il y a eu véritablement un engouement pour la musique moderne, je préfère dire moderne que contemporaine, qui fait qu'on allait vraiment l'écouter, on payait vraiment ses places, on achetait vraiment des disques, il faut rappeler cette collection Perspective du XXIe siècle, qui ensuite a disparu. Donc je crois que cette radio qu'on évoque, cette radio rêvée, aurait été comme ça, aurait pu vraiment avoir plusieurs belles années pour accompagner tout un mouvement qui a été effectivement extraordinaire à cette époque-là. Ensuite, regardez le MOVE, même le MOVE, bon, je ne suis pas un grand spécialiste du MOVE, mais aujourd'hui c'est devenu une sorte de Skyrock subventionné en vérité. Ça n'a plus du tout, je pense, la vocation un peu libre et délirante que ça a eu au début.
C'est-à-dire que s'adressant aux jeunes plutôt qu'à l'endroit de ce qu'ils écoutent, imaginer ce qu'ils pourraient écouter, leur proposer une espèce d'aventure formelle, esthétique, et d'en faire les complices d'une avant-garde radiophonique. Ça pourrait être un programme utopique qu'aurait eu Amour Délicieux Orgue.
Ça, ça aurait été pas mal. Là, je constate actuellement que la musique, si on regarde à la radio, au niveau d'une radio généraliste comme France Inter, aujourd'hui, la musique est utilisée comme outil de formatage. Ils sont obligés de parler de toutes sortes de choses, d'écologie, de droits de l'homme, enfin toutes sortes de choses et de fiches pratiques pour faire respecter ses droits. Enfin bref. Et comme ils doivent parler de plein de choses différentes, ils ont trouvé cette idée horrible qui consiste à formater le musical comme un tapis, en quelque sorte. Or, justement, une radio comme France Inter, c'était de l'anti-formatage, puisque c'était une radio avec des tas de sujets différents. On passe d'une case d'information pratique à une case de musique classique, à une case de rock, à une case de philosophie, etc. Tout ça tient très mal ensemble, sauf par la vocation du service public de donner accès à toutes ces choses-là à une large audience. France Musique, ils ont dans un premier temps semblé finalement singer Radio Classique plus récent. Mais là, en fait, ils sont partis dans une espèce de France Musique pour les nuls, en vérité. La musique classique pour les nuls. C'est toute la journée la pédagogie. On vous apprend des choses toute la journée. Et surtout, on vous explique que Jimi Hendrix, que Pink Floyd ou que machin truc ont commencé par la musique classique, mais qu'ils ont plus réalisé le jour où ils l'ont quitté.
Moi, mon référentiel en termes d'histoire et pour les enfants, c'est les histoires du pince-oreille sur France Culture, que M. Darvor a mis à la poubelle d'un geste méprisant en disant « Il n'y a pas d'auditeur de cet âge-là pour France Culture. » Bravo, monsieur, vous n'avez rien compris à la radio, mais on le savait dès votre nomination. Si on s'adresse aux enfants sur France Musique, je présume qu'il faut... Beaucoup sont musiciens et vont dans des cours de musique, sont même eux-mêmes musiciennes et musiciens. Ben, il faut, dès l'indicatif et le générique, que ça fuse, qu'on entende violon, hautbois, crécelle et autres tambourins.
Le « amour des lycéorgues », c'est effectivement des mots qui deviennent féminins quand ils deviennent pluriels. Quant à la féminisation de la représentation du répertoire classique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est très lente. Il y a encore des jours entiers où il n'y a pas une seule compositrice à l'antenne.
Alors, vous parlez à une militante des compositrices, puisque je vais d'ailleurs faire, dans quelques semaines, une conférence sur les femmes compositrices, qui est une conférence que m'est arrivé de faire un certain nombre de fois. Et d'ailleurs, je m'amuse souvent avec des amis lors d'un dîner, d'une rencontre, d'un air tout à fait chafouin. Je leur dis, tiens, mais quelle est votre femme compositrice préférée? Et là, le silence est total.
Peut-être qu'il faut changer d'amis.
Mais c'est ça qui est terrible, parce que ce sont des gens assez, enfin, des gens cultivés qui connaissent la musique. Alors, j'ai remarqué qu'au bout de quelques minutes, certains donnent le nom de Germaine Taillefer.
Ah, on reste dans le top 5 quand même.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que, en général, on ajoute du groupe des 6. Comme si une femme avait besoin de se légitimer parce qu'elle faisait partie d'un groupe où il y avait 5 autres hommes. Alors qu'on ne va pas dire Poulenc du groupe des 6, hein, ou Millau du groupe des 6. Et je trouve très intéressant cette référence. Et bien sûr, je milite pour que les femmes soient présentes dans les programmations, dans les concerts, dans les festivals. Il y a des progrès, on est sur la bonne route, mais bon, on n'a pas fait même pas la moitié du chemin, même pas le quart, le dixième du chemin, mais on voit avec intérêt Camille Pépin avoir une victoire de la musique et d'autres rentrer au répertoire de l'Opéra de Paris. Et véritablement, c'est une joie et une satisfaction pour moi. Mais je peux qu'encourager la programmation de France Musique, de faire des émissions mais avec des femmes, des programmations avec des femmes. Je ne voudrais pas qu'il y ait des émissions de femmes.
Il ne faut pas que ce soit une case.
Il ne faut pas que ce soit une case. Il faut qu'on se dise, voilà... on passe de Madame de la Guerre à Couperin, sans même dire « Ah bah oui, c'est une femme
». Donc oui, c'est ça, d'avoir une approche non différentialiste,
voilà,
mais tout de même un peu plus paritaire que même pas décimale, elle est pour l'instant. Hein.
Ah oui, non, je pense qu'on est 1%, je n'ai pas fait les comptes, mais ça doit être à peu près... Le pourcentage.
Moi, hein. Ouais, il m'arrive de regarder les jours où il n'y en a pas du tout. Et ça arrive quand même au moins une fois par semaine. Est-ce qu'il y a d'autres marges de progrès possibles?
On a toujours à se perfectionner. On a toujours à s'améliorer. Il ne s'agit pas d'avoir une programmation chaotique où on change tout le temps, comme on change les gouvernements chaque fois qu'on est en difficulté. Non, le changement pour le changement... Il ne faut pas non plus pas trop parler, il faut laisser de la place à la musique.
Alors ça, c'est un des autres débats qui a été récurrent. Je crois que dès le règne de Jacqueline Baudrier, on comptait le temps parlé par heure sur France Musique en particulier, pour dire qu'il
était
toujours trop grand.
Vous connaissez la phrase de Pierre Bouteiller, évidemment. Quand ça parle à la radio, c'est qu'on est sur France Musique, et quand on entend de la musique, c'est que France Info est en grève.
Et donc ça veut dire qu'il n'y a jamais assez de musique sur France Musique ?
Alors, il s'agit d'être explicatif, d'être contextualisant. Et Dieu sait si on a besoin de contextualiser dans la musique, parce qu'il y a des choses auxquelles les personnes sont très sensibles. Je pense en particulier tout ce qui concerne, on vient d'en parler, l'égalité des sexes, tout ce qui concerne la violence... les violences sexistes, sexuelles, psychologiques de toute et physiques de toute nature. Et il y a des œuvres qui ont besoin d'être contextualisées de la même façon qu'on se pose des questions sur les expositions de peinture ou d'œuvres d'art. La question s'est posée pour Gauguin ou pour d'autres. Donc il faut expliquer cela. Par exemple, dans Wagner... Il y a des choses où il faut expliquer que, évidemment, l'inceste habite la tétralogie de Wagner. Si on n'est pas en train d'expliquer ce qui se passe, on peut risquer de braquer un public de plus en plus sensible à ces problématiques et à juste titre. Donc, il s'agit non pas de faire du blabla.
Oui, parce qu'il y avait le yéyé blabla qui était proposé comme nom.
Oui, d'ailleurs, je remarque de faire du blabla et de comme dans certaines radios. Mais je pense que la notion de contextualisation sur un certain nombre d'œuvres est absolument capitale.
Mais alors, il y a un mystère, parce que au ministère de la Culture, et vous en avez été une vectrice parfaite sur la question de l'éducation artistique et culturelle, il y a un consensus absolu. En revanche, sur la chaîne de France Musique, il n'y a quasiment plus de musicologues.
C'est un tort. Mais bon, il y a des gens qui ne sont pas musicologues et qui pourtant ont une bonne culture musicale. C'est aussi une chaîne de divertissement et de vulgarisation.
L'un n'empêche pas l'autre.
Il s'agit d'avoir les deux qualités. Il ne s'agit pas de faire des émissions absconses où on peut faire une émission qui serait purement musicologique pour arriver à décortiquer, Jean-François Zigel fait ça très très bien.
Mais ailleurs,
ce qu'il faisait est tout à fait avec l'orchestre d'expliquer ce qui est en train de se passer. Et quelque chose de tout à fait bien. Mais ça ne peut pas habiter la contextualisation des émissions.
France Musique est une création qui doit proposer des choses. Il faut se rappeler quand même des matinées de France Musique, ça paraît maintenant, de la science-fiction, le matin des musiciens, toutes ces choses-là. Je ne veux pas avoir l'air non plus d'être un vieux con, mais en fait, on apprenait des trucs. Mais on n'apprenait pas le béaba, on était à un niveau un peu plus élevé. On supposait, il y avait un présupposé quand vous écoutiez France Musique, c'est que vous aimiez la musique classique et que... vous vouliez approfondir vos connaissances, vous connaissiez un petit peu. Cela dit, moi, quand j'ai commencé à écouter France Musique, je ne connaissais rien du tout. J'ai donc appris mon Didon aîné là. Mais c'était une radio quelque part plus pour tout le monde qu'aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on va peut-être, dans un premier temps, perdre un certain public qui, encore une fois, vient pour le plaisir de la familiarité. C'est ce qu'on appelle l'effet Mona Lisa. Ça a été étudié, je crois, par Cornell University. Et c'est l'idée que, voilà, quand on a déjà été exposé à une œuvre et qu'en plus, elle est légitimée par toutes les instances les plus institutionnelles autour, justement, forcément, on ne va pas... la Joconde, c'est le chef-d'œuvre de Da Vinci, même si à côté, il y a des œuvres tout aussi géniales.
C'est une variante de l'effet Mathieu, on ne prête qu'aux riches.
Exactement. Et en fait, quand j'étais à l'antenne, donc je programmais, hein, c'était de la programmation musicale pendant 2 heures, je me suis rendu compte de la facilité ou à l'inverse de la difficulté de se sortir de ces biais de programmation, de renforcement en fait. C'est-à-dire, vous programmez une symphonie de Mahler. Évidemment, vous mettez Leonard Bernstein. Enfin, et vous n'allez pas vous rater avec ça. Un concerto de Brahms avec Perlman, c'est nickel. Donc en fait... Si vous-même, en tant que programmateur, vous vous mettez pas dans une logique de curiosité et de vous déplacer de votre zone de confort, eh ben, vous servez toujours la même chose et tout le monde est content parce qu'en fait, on les adore ces grandes œuvres parce que c'est facile aussi de se dire qu'on va tout révolutionner, qu'on sait mieux que ce qu'il faudrait. Et puis, c'est vrai, quand on est aux manettes, d'un coup, on comprend que ce n'est peut-être pas aussi simple que ça, qu'il y a des œuvres qu'on veut faire découvrir, mais elles n'ont pas été assez enregistrées. Donc, les enregistrements qu'on a sous la main ne sont peut-être pas assez bons, assez convaincants. On se dit, si je diffuse ça, est-ce que je sers mon propos ou je desserre finalement la cause, quoi. Voilà. Donc, ça, c'était pratique et pragmatique. Donc, encore une fois, c'est pas aussi simple que ça peut paraître, mais quand on s'est posé cette intentionnalité, il se passe des choses. Mmh. On trouve des solutions. Alors oui, on fait quelques insomnies pour trouver les 5 minutes qui vont convenir dans la thématique avec soit une interprète femme, soit une compositrice, soit un compositeur d'une minorité. Et en fait, voilà, on a aussi des retours très positifs. Moi, je me souviens, pour l'avoir fait, j'ai eu des auditeurs qui, au contraire, se réjouissaient justement des moments de découverte.
Ils se terrent au plus profond de la jungle orchestrale, entre les barrissements des cors et les piaillements des violons. Difficilement approchables, nous sommes parvenus à retrouver sa trace.
Il ne possède pas de cri, mais une étrange baguette avec laquelle il capture ses proies et intimide les autres prédateurs. Grand amateur de partitions de 700 pages et de cachets à 6 chiffres, il s'apparente à la famille des pies, dont il porte la queue caractéristique.
Le chef possède un mode de reproduction particulier. La période de gestation est longue, extrêmement longue. Si bien que lorsque le chef d'orchestre quitte le nid pour affronter les grandes phalanges internationales, il a en général déjà passé la cinquantaine. Mais une sous-espèce apparue récemment défie tous les statu quo, en osant affronter la jungle obscure des salles de concert dès la vingtaine. On appelle ce phénomène le macellisme.
Franche Langouette, dans votre livre 60 ans au poste, vous écrivez page 213. En 1964, Jean-Christophe Averty, un as audio et visuel, monte sur les toits de la maison de la radio. Il filme Dionne Warwick chanter Walk On By. Mai 2014, le nouveau PDG de Radio France, Mathieu Gallet, n'a pas cette audace. Il en a une autre, et quelle autre ? Est-ce que vous pensez que si Mathieu Gallet avait dû s'occuper de Amour des lycées Org, il aurait fait 3 chaînes ? Une qui s'appelle Amour, une qui s'appelle Délice, une qui s'appelle Orgue. Ou 3 canaux ?
Oui, il aurait fait ça très très bien. Alors seulement, avec tous ses amis, conseillers en com et tout, on lui aurait dit à dos, tu vas te mettre à dos, tout un tas de gens. Parce que moi aussi, je sais les faire, mais... voilà, donc je... Ouais, Amour, Délice et Orgue. Oui, il aurait été capable de segmenter comme ça. Non, il n'y aurait plus d'inter, puisque... Tout ça aurait été un petit peu melting pot, quoi. Mais je crois qu'en radio, il faut taper fort pour l'oreille, quoi. Sans que ça soit la radio, des gens très intelligents sur la pub ont dit qu'il fallait trois initiales, RTL, TF1, Antenne 2, FR3, tout ça, c'est très bon, quoi. 1, 2, 3. Alors, ça pourrait être pour Amour, Délice et Orgue, mais un peu plus tenu, quoi. Il aurait fallu Thierry Ardisson vienne faire Orangina, secouez-moi.
Ça voudrait dire qu'il faudrait renommer Métaclassique en Métaclasse.
Ah oui, alors ça, par contre, c'est une très bonne idée. Alors, Métaclassique, c'est très bien, mais je vois bien un claquement de doigts, Métaclasse. Ah bah oui, c'est classe et classique. Ah bah oui, bien vu, monsieur Christoffel.
Ah, chérie, je vais voir Malheur 3 ce soir.
Mais dis-moi, mon amour, tu n'as pas un petit rhume ?
Non, tout va bien.
Prends des toussis tout ça, alors.
Toussis tout quoi ?
Toussis tout ça.
Mais oui, bien sûr, tu as raison. Avec toussis tout ça, soyez assurés de dégainer une bonne quinte de toux au pire moment possible. Avec une stimulation de l'agent toussogène à 94%, vous pourrez faire un concours de hatchoum avec le corniste le plus chevronné. Fonctionne aussi bien en été qu'en hiver et ne manquez pas notre édition spéciale opéra qui couvrira jusqu'aux vocalises de la soprano la plus chevronnée.
Toussis tout ça. Ouh, ouh.
Alors, dans 60 ans au poste, vous insistez sur des espèces de audaces formelles qui peuvent se nicher, notamment sur France Inter, à des moments de générique ou à des moments qui composent la structure de l'émission, qui ne sont pas des audaces qui font partie du propos, mais elles sont là et elles rythment et elles œuvrent à la fraîcheur du programme. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'équivalent sur France Musique ?
Alors d'abord, je crois que Dordain, qui avait été scout, précisément éclaireur et instituteur, avait vraiment non seulement l'idée du service public, mais l'idée de la fraîcheur très piquée par tout de suite la réussite d'Europe numéro 1.
Donc pour lui, c'était une réponse à Europe 1.
C'est pas une réponse, mais disons que l'autorité de l'État, le gouvernement lui a dit « bon, ça commence à suffire, les périphériques ». L'État français avait des actions via la Sofirad et il va falloir me remonter tout ça. Et Dordain a remonté. Il voulait de la fraîcheur, de l'initiative, de l'actualité chaude. Voilà, il a fait un très bon mix, mais surtout il a inventé la radio de service. Hein. J'ai l'impression, mais je ne connais pas assez bien la chaîne, j'ai l'impression que sur cette chaîne, on n'a jamais vraiment joué des petites choses de fantaisie, comme il y a eu les décraqués sur France Culture ou les papous dans la tête.
Mais j'ai l'impression que un papou dans la tête classique.
D'une certaine façon, si ça avait été la commande, je ne le connais pas beaucoup, mais un peu quand même, Frédéric Lodéon aurait été capable de jouer avec ça. Et je crois que sa culture musicale l'aurait pu l'amener à, j'espère, de l'humour, de mettre des choses en point et contrepoint, de jouer sur les standards comme le fait aujourd'hui Laurent Valero. Il faut quelqu'un qui pétille pour faire des papous. Et je crois que des papous musicaux, ça serait oui, effectivement très très sympa.
Mais parce que en fait, ce que vous semblez dire, c'est que sous prétexte que c'est une chaîne musicale, elle se refoule comme radio en quelque sorte. Et c'est ce que disait Roselyne Bachelot. Le problème avec France Musique, c'est qu'il y a la moitié des auditeurs qui trouvent qu'elle parle trop, et puis l'autre moitié qui trouve qu'elle parle pas assez. Donc semble-t-il,
parce qu'elle fait pas assez de radio.
De l'autre côté, mais oui, c'est ça.
Parce qu'il y a pas assez de radio. On fait pas assez. Pendant longtemps, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi France Musique faisait pas de radio. Pourquoi France Musique n'avait pas des animateurs un peu plus fun. Alors. On ne va pas qu'on ait tout le monde, il y a quand même des gens de qualité là-dedans. Je pense qu'avec de la connaissance et de la passion, on peut faire jaillir du cœur du réacteur de la bonne radio. Mais il faut avoir la connaissance, la passion et une certaine liberté pour faire exploser un peu les convenances. Et en fait, cette radio France Musique est effroyablement convenue.
Donc la solution, ce serait effectivement, bah, pourquoi pas, d'avoir un programme qui s'appelle Amour des lycées orgue et qui conjugue comme ça avec délices, avec fantaisie,
avec des gens de talent. Ouais. Alors, je crois que la première chose, c'est de recruter des gens libres, amusants, savants. Il y a beaucoup de plaisir hein, dans les choses savantes.
Donc vous, Franck Lanoux, si vous étiez amené à prendre la direction de France Musique, qu'est-ce que vous feriez ? Vous changeriez d'abord les titres d'émission, par exemple ?
Non, je ne crois pas. Je crois qu'on ne me le proposera pas, déjà, mais en tout cas, l'exercice est amusant. Je crois que je passerai beaucoup de temps avec les gens pour comprendre, eux, comment ils l'ont fait, parce que la dimension humaine d'une radio, et même pour une radio musicale, elle est stratégique. La radio, c'est sûrement le média le plus humain. C'est celui qui doit toucher le plus les gens, parce que sans images, sans traces, même parfois, la radio, elle doit vraiment créer comme ça une relation un peu invisible, grâce au son, grâce uniquement au son. Et donc, cette dimension-là, elle est totalement humaine. C'est la force de la radio. Et donc, je pense qu'il faut comprendre les hommes qui la font, aussi et d'abord, et puis les auditeurs qui l'écoutent. Donc, avant de prendre la moindre décision, je pense que je passerai beaucoup de temps à travailler avec les gens qui ont fait le succès de France Musique jusqu'à présent, et certainement avec des auditeurs qui l'écoutent.
Donc vous ne reviendriez pas sur son nom, vous ne prendriez pas Amour des lycées rock, par exemple.
Non. Je ne crois pas du tout. Non,
ah, vous n'y croyez pas dans ce titre ?
Moi, je ne crois pas que je le ferai. Non, ah, c'est... Oui. Parce que vous m'avez mis dans la posture d'un directeur potentiel de France Musique. Je crois qu'en effet, je conserverai bien son nom. Oui.
Comme dit Bastien David, l'avantage des périodes sombres, c'est que la moindre étincelle se voit de tout le monde.
Ah, j'adore.
Ouais, c'est magnifique.
J'adore. Mais s'il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on est dans un temps sombre pour la musique classique.